avec David Abiker.
Esprit libre à 9h moins quart sur Radio Classique avec Luc Ferry, notre esprit libre du lundi. Bonjour Luc.
Bonjour David.
Qu'inspire à l'ancien ministre de l'Éducation nationale le procès médiatique fait à son successeur, la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, d'avoir scolarisé ses enfants dans le privé?
Mais écoutez, un dégoût pour ceux qui ont lancé la polémique et qui l'alimentent. Que les formules qu'elle ait utilisées soient légèrement maladroites quand on connaît le milieu éducatif, c'est une évidence. Mais c'est une petite maladresse et c'est un véritable scandale de lui faire un procès aussi agressif, aussi stupide, pour deux raisons. La première raison, c'est que depuis la loi Lang, le privé sous contrat fait partie du service public. Donc elle a parfaitement le droit, c'est ni immoral ni illégal, de mettre ses enfants dans une école privée sous contrat. C'est parfaitement légitime. C'est son droit. Et c'est pas, encore une fois, sur le plan moral, un scandale. Et deuxièmement, le sujet qu'elle a évoqué, le sujet du remplacement, est tout à fait réel. Donc, attendons de voir ce que cette dame va proposer pour régler le problème. Si elle y arrive, tant mieux. Et ça, je lui tirerai mon chapeau parce que c'est extrêmement difficile. C'est un sujet extrêmement technique dans lequel on va pas rentrer ici. Mais, encore une fois, ces polémiques qu'on déclenche sur des toutes petites phrases, sur une petite maladresse, sans attendre de voir ce que cette dame vaut dans ce ministère, ce qu'elle propose, quel est son programme. C'est scandaleux. Arrêtons de nous empailler, de nous embrouiller sur des petites phrases à la con. Pardon, excusez-moi de dire ça comme ça. Laissons-lui une chance. Regardons son programme. Mais encore une fois, elle a parfaitement le droit de mettre ses enfants dans le privé sous contrat. Ça fait partie du service public. Les professeurs du privé sous contrat sont inspectés par les inspecteurs du public. Les programmes sont les programmes du public. La seule différence, c'est qu'il y a cette espèce d'autonomie sur le plan religieux. On peut avoir un cours d'enseignement religieux, par exemple, mais c'est même pas une obligation. Et donc, encore une fois, cette polémique est vraiment absurde. Laissons-lui le temps de proposer quelque chose. Voyons, jugeons sur pièce et sur place. Voilà, mais pas sur des petites phrases stupides.
Luc Ferry, est-ce que l'absentéisme des profs est plus marqué dans le public que dans le privé?
Très probablement, oui, bien sûr, parce que dans le privé, vous pouvez recruter quelqu'un beaucoup plus facilement que dans le public. Et puis, c'est vrai qu'il y a une crise. Et c'est sur le plan de la gestion du ministère, si on prend le ministre un peu comme un chef d'entreprise, qu'il est aussi, la question du recrutement des professeurs est la question cruciale. Il nous manque des professeurs dans tous les secteurs où on peut faire autre chose que d'aller se faire martyriser par des potaches mal élevés à la frontière belge, c'est-à-dire en maths, en biologie, dans les sciences, où on peut aller ailleurs, parce que c'est un métier qui est devenu très difficile et mal payé. C'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est la vérité. On recrute des professeurs de maths qui viennent, par exemple, du Maroc, de l'université de Rabat. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ça veut dire que les professeurs français sont partis ailleurs. Voilà. Parce que quand vous avez Bac plus 5, vous avez passé la grègue, et qu'on va vous payer 1 400 € par mois pour vous faire martyriser à 300 km de chez vous, vous préférez aller travailler chez IBM ou ailleurs. Et donc, c'est ça la vérité. Donc, il y a un vrai problème de rémunération des enseignants. Claude Allègre l'avait vu, il avait fait la revalo, mais il faut le refaire aujourd'hui. Et donc, ça supposerait, et c'est très compliqué aussi, parce que bon, l'État est en faillite, hein, il faut dire les choses comme elles sont, avec 3000 milliards d'euros de dette, l'État est en faillite comme jamais. Ça supposerait qu'on échange avec les professeurs qui le veulent un horaire un petit peu plus élevé, avec une rémunération beaucoup plus élevée. C'est la seule solution aujourd'hui. J'ai pas le temps de détailler ça, c'est compliqué.
Non, mais on comprend. Voilà. Il y a une grève de bienvenue le 1er février à l'Éducation nationale souhaiter la bienvenue à la nouvelle ministre.
Oui, c'est terrifiant. Oui.
J'en viens à la composition du gouvernement plus resserrée, plus politique, plus à droite, soi-disant, parce que les premières déclarations des différents ministres font repencher le navire à gauche. En tout cas, est-ce que cette composition, cet esprit gouvernemental, est-ce selon vous la direction à prendre?
Non, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement le plus débaucheur de l'histoire de la Ve République. Comme l'avait dit très bien Rachida Dati avant d'y entrer, c'est des traîtres de droite et des traîtres de gauche, c'est sa formule. Et donc, quand vous débauchez... Ah, je reprends la formule de Rachida Dati, qui est excellente. Et donc, c'est le gouvernement le plus débaucheur et le plus isolé en même temps. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que c'est le contraire exact de l'Union nationale. Pourquoi? Parce que les partis politiques, les grands courants politiques, non seulement restent en dehors, mais sont plus fâchés que jamais. Regardez la réaction de Bayrou, Il est foudrage. Il dit, à la limite, on va peut-être créer une liste aux européennes à part, parce qu'il n'y a qu'un seul ministre sur 14 ministres qui vient du MoDem. Le compte n'y est pas, comme a dit Bourlange. Regardez la réaction de Ciotti. Il a exclu immédiatement Rachida Dati du parti. Donc, croire que parce qu'on va recruter 8 ministres de droite, la droite va être contente, c'est l'inverse exact. La droite est folle de rage.
Rétrécissement de la base politique, comme on a rétréci la salle du Conseil des ministres.
Voilà. Et les gens comprennent pas, ils se disent, ah ben c'est bien, il prend des ministres de droite et des ministres de gauche, donc c'est l'Union nationale. C'est exactement le contraire. C'est le contraire de ce que font les Allemands. Les Allemands, ils négocient de parti à parti et ils font un contrat avec les autres courants.
Est-ce que c'est pas une façon pour Macron d'être un peu anti-système et de faire des choses absolument imprévisibles et pas du tout conformes au canon des remaniements ministériels que nous avons connus jusqu'à présent?
Sauf qu'il est en train de se planter dans les grandes largeurs, parce que quand vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez rien faire en vérité, sauf le 49-3, le 49-3, le 49-3. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez la dette que nous avons, la politique est remplacée, l'action est remplacée par la com, parce que vous n'avez plus les moyens d'agir. Et si en plus de la dette, vous avez une minorité, en tout cas une majorité relative, seulement relative à l'Assemblée nationale, ce qui se passe est tragique, c'est que non seulement la com prend la place de la vraie politique, mais vous allez vous rabattre sur le sociétal, l'euthanasie, l'avortement. Ça mange pas de pain, si je puis dire, parce que comme de Mélenchon à Le Pen, tout le monde est pour la loi Veil, vous pouvez très bien inscrire la loi sur l'avortement dans la Constitution sans que personne ne proteste. Voilà. Et donc, ça, vous avez l'air de réformer la France alors que ça ne sert strictement à rien.
Comment vous expliquez, ça peut pas être uniquement une débauche de com, le rythme des surprises avec Dati, avec Vautrin, les annonces fracassantes, 32 milliards pour l'hôpital ce week-end, et puis une conférence de presse demain à 20h15 du président de la République. Oui. Les événements d'annonce se rapprochent. Est-ce que c'est de bonne politique?
Non, mais David, qui est surpris par Madame Vautrin, personne ne la connaît. 98% des Français ne savent pas qui c'est. En plus, la malheureuse, elle était très sens commun. Si on fait une loi sur l'euthanasie ou sur l'avortement, elle va être embêtée. Et donc, oui, Rachida Dati, c'est très visible. Et tant mieux. Moi, j'aime beaucoup Rachida. Si ça peut l'aider à gagner à Paris et à nous débarrasser de la pire catastrophe qui soit arrivée à Paris, moi, j'en serais ravi.
Vous pensez qu'elle est entrée au gouvernement par opportunisme en visant Paris?
Ah, peut-être pas seulement en visant Paris, mais par opportunisme, oui, bien sûr. Mais l'opportunisme, ça fait partie de la vie politique. Moi, jamais je ferais ça. Mais c'est elle qui a dit, En Marche, c'est des traites de droite, c'est des traites de gauche. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle qui l'a dit. Bon, elle a dit, je serai jamais la béquille de Macron. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Après, elle gère les choses comme elle veut. Moi, je suis pas un moraliste, je suis pas un prêtre. C'est pas à moi de distribuer des bons points ou des mauvais points. Je dis simplement que le débauchage n'est pas l'Union nationale. C'est le contraire. Voilà, il faut que les gens comprennent ça.
Luc Ferry, je vous sens de plus en plus désorienté ou désabusé par l'absence de marge de manœuvre que vous prêtez à Emmanuel Macron. Oui. Vous pensez qu'il ne sortira rien de ce nouveau gouvernement ou des annonces qu'il peut faire demain ou à Davos mercredi?
Oui, bien sûr, c'est exactement ce que je pense pour les raisons que je viens de vous indiquer. C'est-à-dire les deux raisons qui bloquent la véritable action, c'est la dette d'un côté et l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. L'équation que Emmanuel Macron avait à résoudre, et c'est pas de la faute de Gabriel Attal, que j'aime beaucoup, c'est pas le sujet. Mais l'équation qu'Emmanuel Macron avait à résoudre, c'était de rassembler comme on le fait en Allemagne. Il avait une chance, paradoxalement, c'est de ne pas avoir la majorité à l'Assemblée. C'est une chance. Et ça lui permettait de passer un contrat avec la droite et avec la gauche démocratique, avec les sociaux-démocrates qui ont eu le courage de ne pas vendre leur âme pour un plat de lentilles à Mélenchon. Il pouvait nommer un grand gaulliste à Matignon et puis faire un gouvernement d'union nationale, ce qui lui aurait permis de retrouver des marges de manœuvre pour l'action réelle. C'était ça l'enjeu. Et c'était parfaitement faisable. Je peux vous dire, je le sais, parce que là, franchement, je les connais. J'ai suffisamment présenté pour savoir qu'il y a j'ai des amis gaullistes qui étaient prêts à aller à Matignon.
C'est cuit, selon Luc Ferry, si je l'ai bien compris. Alors, passons à un autre sujet et une question philosophique pour le coup. Qu'est-ce que c'est que savoir à l'heure de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que veut dire savoir au moment où toutes les connaissances peuvent être mobilisées par une machine très rapidement pour un homme? Qu'est-ce que c'est que savoir à ce moment-là?
C'est-à-dire quel peut être le complément de ce que va nous apporter l'intelligence artificielle. En effet, ChatGPT, vous lui posez une question, il vous répond en 4 secondes, souvent assez bien. Surtout si on a le 4, il répond même très très bien parfois. J'ai fait l'expérience avec mon ami Villepin, on a demandé comment résoudre la question Gaza-Israël. Il donne 6 points qui sont excellents. Voilà, et en 4 secondes, 5 secondes.
Mais là
qu'est-ce qui nous reste? C'est ça la question.
Il a une capacité à répondre à des problèmes et à vous faire tout ce que vous voulez en termes de première fiche, etc.
Ouais, mais voilà. Qu'est-ce qui nous reste?
Savoir qu'est-ce qui nous reste. Ma génération et celle de ma mère et de mes grands-parents, il fallait connaître ces tables de multiplication, il fallait connaître même les numéros des départements quand il y en avait encore, il fallait savoir où se trouvait l'Allemagne, où se trouvaient les États-Unis, etc.
C'est devenu inutile.
On apprenait la couleur des drapeaux, il y en avait plus de 120. Oui. Enfin, on savait des choses. Mais aujourd'hui, il faut savoir quelque chose, mais on vous répond, mais tout est dans mon téléphone.
Ça ne changera rien à la question de l'esprit critique et de la réflexion. Le ChatGPT peut vous dire comment pense quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite, comment pense un nazi ou comment pense un spinoziste ou comment pense un démocrate de gauche ou comment pense un marxiste. Il va vous faire une fiche qui sera très bonne en vérité. Et en plus, c'est un bébé encore. Quand on aura ChatGPT 10 ou 50, imaginez ce qui sera dans 50 ans. Bon. Et donc, il peut vous faire des fiches parfaites, mais il ne peut pas choisir à votre place. Il n'a pas le libre arbitre. Et donc, il y a une statistique qui est sortie hier qui est absolument fascinante. Et je vais vous la donner. C'est mon ami Laurent Alexandre qui me l'a donnée. Vous avez un système de diagnostic médical, un logiciel de diagnostic médical. Il est meilleur, il est bien meilleur que les médecins. Et il est meilleur que le médecin associé à lui-même. Autrement dit, quand on associe à ce logiciel de diagnostic médical un médecin, le médecin dégrade le résultat.
Oh.
Voilà. Donc c'est dingue ce qui se passe aujourd'hui. En revanche, en philo, il est nullissime. Il me sert.
C'est votre chance.
Mais d'une certaine manière, oui. En revanche, c'est ça, vous le savez, David, puisqu'on joue ensemble en créativité artistique, il peut être quand même assez fascinant.
Ah, oui, alors pour les auditeurs, dingue. Pour qu'on soit pas dans l'entre-soi, pour les auditeurs, Luc Ferry et moi avons joué pendant toute la période des vœux à nous envoyer des cartes de vœux très personnalisées, fabriquées par ChatGPT-4, qui a une intelligence graphique tout à fait exceptionnelle. Vous avez posé les termes du débat qui se pose pour l'intelligence artificielle en ce moment. Faut-il accélérer ou ralentir? En clair,
c'est le grand
régulation
débat.
Ou saine concurrence? Il n'y a pas que vous qui posez ce débat, mais vous l'avez exposé dans le Figaro. Vous avez une minute pour nous dire quelle est votre thèse à vous, votre parti pris.
Alors, je pense que les régulateurs sont sympathiques et on a tous envie, en effet, d'essayer de se protéger, par exemple, dans le monde du travail. Déjà, certaines entreprises suppriment, écoutez bien, 70% de leurs emplois remplacés par des robots d'intelligence artificielle. Et les gens qui pensent que ça ne continuera pas se trompent. Donc, régulation, oui, mais dans le monde de la compétition mondialisée, ça ne marche pas. Imaginez que l'IA Act européen va avoir la moindre influence sur la Chine est délirant. Voyez, donc on a un problème de mondialisation. J'ai pas le temps d'exposer ça, mais je pense que ceux qui nous écoutent comprennent déjà que dans la compétition mondialisée qui est sur ce sujet particulièrement féroce, la régulation en vérité est impossible. Elle ne peut être que très très partielle et très tardive. L'IA Act ne sert à rien en Chine.
Luc Ferry, l'esprit libre du lundi, on en reparlera de l'IA, ça passionne nos auditeurs et ça passionne Luc Ferry. Il y a 60 ans à Versailles, dans une salle qui s'appelait le Cyrano, répétaient les Beatles avant d'aller à l'Olympia. C'était il y a 60 ans exactement. On écoute Eleanor Rigby, version classique.
Sublime.